بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ف aujourd'hui le 29 du mois de Jumad al-Oula de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le troisième cours de notre série de cours sur le commentaire de Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. L'imam Ahmad est mort en quelle année les frères? Barakallahu fikum. C'est quoi? 241. Ahsant. Nous nous étions arrêtés à la parole de Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullahu azza wa jal, où il dit, dans le sens de ses paroles, « Puis les innovations religieuses se répandirent, comme la secte de Al-Khawarij et celle des extrémistes Rawafid, à la fin du califat de Ali, radiyallahu anhu. En effet, Ali, radiyallahu anhu, leur avait envoyé Abdallah ibn Abbas pour débattre avec eux. Après cela, ces derniers ont sorti les épées pour tuer les musulmans. Ali les a combattus comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. Tous les compagnons vivants à son époque s'étaient alignés à sa résolution et ce, sans exception ni débat. » Ici donc, Cheikh évoqua ces premières innovations qui sont apparues dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui sont encore présentes jusqu'à aujourd'hui et desquelles se sont ramifiées maintes et maintes innovations. Certaines ne font pas partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais même s'ils le prétendent, et certaines en font partie. C'est-à-dire certaines ont fait des innovations, commis des innovations qui les ont fait sortir de cette religion, et certains ont commis des innovations qui ne les ont pas fait sortir de cette religion, mais ils font partie des gens de l'innovation. Il rentre donc dans ce hadith des 73 sectes ou 73 factions, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme évoqué par Cheikh, comme on l'a lu la semaine passée, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans ce hadith qui est communément appelé hadith ou l'iftiraq, le hadith de la division, ou hadith al-thintayn wa sab'ina firqa, le hadith des 73 sectes, où il dit, et ce hadith est un hadith qui est authentique, authentifié par des grands imams, pas uniquement par Cheikh al-Imam al-Muhaddith, Muhaddith al-Asr, Mohamed Nasiruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala. Pas uniquement cette personne, parce que les gens de l'innovation vous diront que ce hadith est un hadith qui est faible et il n'y a que al-Albani qui l'a rendu authentique. Non, ça c'est une manière qu'ils ont de ramener des ambiguïtés aux musulmans. Plutôt, nous voyons que des grands imams qui sont connus et reconnus, même par ces gens-là, ont authentifié ce hadith, et ce depuis des siècles. Parmi eux, l'imam al-Dahabi, rahimahullah ta'ala, et autres. L'imam al-Dahabi, qui était une montagne dans la science du hadith. Il a authentifié ce hadith, et autres que lui. Donc n'écoutez pas ces gens qui veulent vous faire croire que ceci est une innovation ces paroles sont des paroles qui sont des paroles étranges rapportées dans ce siècle. Il n'y a que Al-Albani et ceux qui l'ont suivi qui ont authentifié ce hadith, etc. Ces paroles que vous avez l'habitude d'entendre, ça ce sont des paroles d'ignorants ou de personnes qui savent mais qui veulent obscurcir la vérité afin d'égarer les musulmans. Donc ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens de ces paroles, cette communauté se divisera en 73 factions, toutes vouées au feu, sauf une. Lorsque les compagnons lui demandèrent « Quelle est-elle, ya Rasulallah ?» Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ceux qui sont sûrs, ceux que je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. » Et dans une autre version, il dit « Hiya al-jama'a, c'est le groupe. » Et dans une parole d'Abdallah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il définit qu'est-ce que le groupe. Il dit « Le groupe, c'est Ahsant. » Il dit « Que tu sois sur la vérité, tu es le groupe si tu es sur la vérité, et ceci même si tu es seul, dans le sens de ces paroles. » Donc pour résumer, cette voie, cette faction qui est la faction sauvée, le groupe secouru, comme dans cet autre hadith qui se trouve dans As-Sahihayn, ce groupe c'est celui qui est sur ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Encore une fois, on voit l'importance de connaître cette voie, la voie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car tu ne peux pas suivre cette voie que si tu l'as apprise, si tu l'as connue, tu sais sur quoi ils étaient dans leurs croyances, dans leurs adorations, dans leurs comportements, dans toutes les facettes de leur vie, de leur cheminement vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Il dit donc, Cheikh, ici, il nous évoque ses premières innovations religieuses. Il nous parle de Al-Khawarij que nous avons connu. Il nous parle de Al-Rawafid. Al-Rawafid, qui est une branche du schisme, Al-Shi'a, qu'on appelle Al-Shi'a Al-Rafida, une branche du schisme. Et ces gens-là, nous aurons l'occasion de traiter leurs croyances dans le futur, Incha'Allahu Ta'ala, mais leurs croyances, pour résumer, c'est la non-croyance et la complète contradiction du livre d'Allah et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour résumer. Et je traiterai, Incha'Allahu Ta'ala, dans un cours, la croyance de Al-Rawafid, car ils sont répandus. Et de nos jours, lorsqu'on parle de Shia, souvent, on parle de Al-Rawafid. Lorsqu'on dit les chiites d'Iran, par exemple, ce sont ces personnes-là, Al-Rawafid. Et ce que les non-musulmans ne connaissent pas, ou certains pour eux connaissent, et lorsqu'ils disent qu'il y a les sunnites et les chiites, de même que les gens de l'innovation, lorsqu'ils font cette différence, les sunnites et les chiites, et nous sommes tous frères et nous sommes tous musulmans, et donc il y a les musulmans chiites et les musulmans sunnites, pourquoi divergeons-nous alors que nous sommes tous musulmans ? Ceci est une ambiguïté qu'ils ramènent pour égarer les musulmans. Parce que ces gens-là, ces chiites-là, car le chiisme a différentes branches, mais ce chiisme-là, ou ces chiites-là qui sont Ar-Rafida, sont des gens qui ne sont pas estimés comme faisant partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, ces gens qui se trouvent en Iran et autres que cela. Prenez garde à cette ambiguïté. Et ces gens-là, Al-Shi'a, Ar-Rafida, ils ont des centres. Même ici en France, il y a un centre qui s'appelle Zahra, c'est ça, non ? Vers Lille, du côté de Lille, tout ça dans le nord, hein ? Zahra, etc., etc., ils ont des centres, comme tous les gens de l'innovation, ils ont des centres, ils ont des endroits où des endroits qu'ils prennent comme tribune pour répandre leurs innovations et leurs ambiguïtés et injecter leur poison dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faites bien attention à cela et mettez en garde les gens autour de vous afin que nous prenions conscience qu'il n'y a pas une chose qui s'appelle les sunnites et les chiites, et nous sommes tous musulmans. Le chiisme, lors des premières générations, avait un autre sens que le chiisme aujourd'hui. Lorsque l'on dit les chiites aujourd'hui, généralement, on parle de ces gens-là, Ar-Rafida. Même si ce n'est pas quelque chose d'absolu, c'est-à-dire qu'il y a des chiites qui ne sont pas des chiites rafidites, Rafida comme on dit, mais de manière générale, lorsqu'on dit les chiites, on parle des chiites qui sont là-bas en Iran, puisque c'est leur pays, leur état, l'état chiite, et c'est un état rafidi. Et comme on l'a dit, le rafd, cette croyance, cette branche du chiisme, est une branche qui n'a rien à voir avec la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que le Coran que nous avons entre les mains est falsifié, qu'il y a une sourate qui est enlevée, il y a des rajouts, ils rendent mécréants la grande majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils imputent à certains d'entre eux de grands péchés. Ils ont une croyance qui est une croyance polythéiste dans leurs imams et leurs leaders, comme le fait qu'ils connaissent l'invisible, comme le fait qu'ils sont, comme on l'a vu dans la croyance des soufis, ou de certains soufis, ceux qui exagèrent parmi eux, ils ont une croyance dans leurs leaders et leurs têtes qu'ils connaissent l'invisible et qu'ils peuvent se déplacer dans la création et faire ce qu'ils veulent dans la création. Et autre que cela, parmi les innovations et les actes de non-croyance, et les paroles et les croyances de non-croyance de ces gens-là. Donc ça, il faut le savoir. Ces gens-là, ce sont des gens qui ne font pas partie de notre communauté. Barakallahu fikum. Et je détaillerai un peu plus en détail, où je détaillerai un peu plus, donc, la croyance de Ar-Rafida dans des cours prochains. Ici, nous trouvons la parole de Abdallah ibn al-Mubarak, rahimahullah, parmi les imams de As-Salaf, où il dit que la base de ces groupes, de ces sectes, est de 4 sectes. La base de ces groupes, de ces sectes, est au nombre de 4. Quelles sont-elles ? Il nous dit, Ibn al-Mubarak, et ceci est rapporté d'autres que lui, rahimahullahu ta'ala, il dit, la base des 72 sectes, 72 factions, 72 donc qui sont vouées au feu, est du nombre de 4. Quelles sont-elles? Il dit, al-Qadariya, al-Murji'a, al-Shi'a, al-Khawarij. Al-Qadariya, al-Murji'a, al-Shi'a, al-Khawarij. Certains d'entre elles, nous avons déjà traité une partie de leurs croyances, et d'autres, nous allons y venir lors de notre étude de ce livre. Apprenez simplement cette parole de Abdallah ibn al-Mubarak, cette chose qui est rapportée de lui comme d'autres que lui. Il nous dit de ces quatre, rahimahullah, il nous dit de ces quatre sectes, de ces quatre factions, les 72 autres factions, ou les 72 factions se sont ramifiées. Elles sont toutes sorties de ces quatre sectes qui sont les sectes de base, et elles sont les premières à être apparues dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Al-Sheikh nous parla de l'envoi de Ali, radiallahu anhu, de Abdallah ibn Abbas, radiallahu anhum ajma'in, à Al-Khawarij, afin de débattre avec eux. Je vais y arriver ici, je vais terminer, clôturer le cours d'aujourd'hui par ce débat, qui est un débat très important, qu'il convient aux musulmans de connaître, de lire. Quel est ce débat, cette manière de débattre de Abdallah ibn Abbas avec Al-Khawarij? Il nous dit donc que, en effet, Ali leur a envoyé Abdallah ibn Abbas pour débattre avec eux. Après cela, ces derniers sont sortis ou ont sorti leur épée pour tuer les musulmans. Ceci est la voix de Al-Khawarij, comme vous le savez. Et nous voyons dans l'envoi de Ali, le calife, bien guidé, radiallahu anhu, d'un grand savant de Habrul Umma, ce grand savant de la communauté Abdallah ibn Abbas, une sunna des califes bien guidés. Le fait que celui qui va débattre avec les gens de l'innovation, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas l'ignorant. Ce n'est pas le petit étudiant en sciences. Ce n'est pas l'étudiant en sciences. C'est le savant. Celui qui a ses pieds ancrés dans la science. C'est lui qui va débattre avec les gens de l'innovation. Ce n'est pas n'importe qui. Et on va y arriver au cours prochain. Cette chose qui fait partie des fondements de la sunna rapportée par l'imam Ahmad, délaisser le débat et l'assise avec les gens de l'innovation. Et ceci fait partie des fondements de la voie des gens de la sunna. Des fondements de la voie du manhaj des gens de la sunna. Le fait que nous ne nous asseyons pas avec les gens de l'innovation, nous ne prenons pas la science de eux, nous ne nous asseyons pas avec eux, nous leur faisons ce qu'on appelle el-hajr, c'est-à-dire que nous les boycottons, nous écartons d'eux, de même que nous ne débattons pas avec eux. Car il y a dans le débat avec eux un grand danger pour la religion du musulman. Tout ceci, je le traiterai dans le cours prochain, incha'Allah ta'ala, lorsque nous arriverons à cette partie. Comme je vous ai dit, cette petite introduction de l'imam Ahmed dans Usul Sunna a beaucoup de bénéfices. Nous tirons de cette introduction beaucoup de bénéfices. C'est pour ça qu'on prend quelques cours dans cette introduction, car elle est très importante. Elle constitue des fondements qu'il convient aux musulmans de connaître et d'appliquer dans sa vie. Et ces fondements nous serviront dans l'étude du reste des fondements de la sunna rapportés par l'imam Ahmed, c'est-à-dire les fondements de la croyance des gens de la sunna. Il dit ensuite, Al-Shir, rahimahullah, hafidahullahu ta'ala, il dit, ce qui est à retenir, c'est que le fait de suivre les compagnons est le chemin salutaire. Ici, Al-Shir, Rabi', hafidahullah, nous donne un résumé ou une conclusion de cette introduction, et il nous évoque le pourquoi, la cause, pourquoi nous suivons les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et leur compréhension. Il dit donc, ce qui est à retenir, c'est que le fait de suivre les compagnons est le chemin salutaire. Cela constitue le bateau de sauvetage, comme le dit l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, as-sunnatu safinatu nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Dans le sens de ces paroles, la sunna est le bateau de Nuh, l'arche de Noé, comme ils disent. Celui qui monte sur cette arche est sauvé. Celui qui ne monte pas sur cette arche sera englouti par les flots. Ceci est la sunna. Et qui rapporte la sunna? On a vu dans la terminologie du hadith qui sont les rapporteurs de la chaîne de transmission. Qui nous rapporte la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? As-Sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien. Donc As-Sahaba, radiyallahu anhum, ce sont les premiers rapporteurs de la sunna. Une règle très importante chez les gens de la sunna. Une règle très importante. At-ta'nu fil naqil, ta'nun fil manqul. La critique de celui qui rapporte l'information est une critique de l'information. Ces gens, parmi Ar-Rawafid, qu'on vient d'évoquer, les chiites Rafida, de même que Al-Khawarij, de même que autres qu'eux, qui ont critiqué, et pour certains d'entre eux rendu mécréants, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ont-ils voulu par cela ? Ils ont voulu critiquer la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, puisque ce sont eux, As-Sahaba radiyallahu anhum, qui nous rapportent la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qui nous rapportent la compréhension viable et valide et authentique de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Pourquoi ? Comme on l'a dit la semaine passée, parce qu'ils étaient présents lors de la révélation. C'est eux qui ont vécu avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui avait un comportement qui était conforme au livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque certaines personnes parmi les gens de l'innovation vous disent que Abu Huraira était comme ceci ou comme cela, que un tel parmi les gens, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient comme ceci ou comme cela et rapportent des défauts de ces derniers, et bien souvent ce sont des mensonges qu'ils rapportent. Et même s'ils rapportent des défauts, est-ce que les compagnons ont fait des erreurs? Est-ce que le compagnon se trompe? Bien sûr. Le compagnon n'est pas infaillible. Le seul qui est infaillible, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la croyance des gens de la sunna, comme on va le voir dans le traité des gens de la sunna, c'est que nous n'évoquons pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de la meilleure des manières. La personne qui évoque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam par des choses qui ne sont pas louables, élogieuses, cette personne-là est quelqu'un qui a dans son cœur une ambiguïté, un égarement. Comme on va le voir lorsque on va parler de la croyance des gens de la sunna concernant les sahaba. Donc cette règle qui est très importante, apprenez-la. C'est-à-dire la critique de celui qui rapporte une information est une critique de l'information, car cette information n'était pas parvenue que par l'intermédiaire de cette personne-là. Au moment où ces gens de l'innovation n'ont pas trouvé une porte par laquelle rentrer pour ramener des ambiguïtés aux musulmans en leur disant que cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a telle et telle chose dedans, ils ont vu que les musulmans n'acceptaient pas cela. Comment vous parlez sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comment vous parlez sur la sunna, sur ses paroles, sur ses actions? Ils ont vu que les musulmans n'acceptaient pas cela. Ils ont trouvé donc une autre manière. Ils sont entrés par une autre porte. C'est le fait de parler sur celui qui nous rapporte l'information. Et si je critique celui qui rapporte l'information, qu'il est comme ceci ou comme cela, comme on l'a vu dans l'essence du hadith, son information tombe. On ne l'accepte plus. Vous comprenez? Faites bien attention à cela. Et donc, Shir nous dit: car ceux-ci ont vécu la révélation, ont appris la science du Coran et de la Sunna et ont vu leur application avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont donc des modèles à suivre, comme l'a dit l'imam Ahmed, wa liqtida'u bihim, les prendre comme modèles. Ils sont donc des modèles à suivre. C'est pour cela que le messager sallallahu alayhi wa sallam déclara, dans le sens de ses paroles, ce que mes compagnons et moi pratiquons, ce sur quoi je suis moi et mes compagnons, dans le hadith des 73 sectes. Des 73 factions. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, « Suivez ma sunna et celle des califes bien guidés. Et mordez-y, cramponnez-vous-y avec vos molaires. » Ici s'arrête la parole de Shir et s'arrête cette partie. Donc, du cours d'aujourd'hui, je terminerai le cours en évoquant deux hadiths. Il y a dans ces deux hadiths beaucoup de fawa'id, beaucoup de bénéfices. Le premier est, d'après ce qu'a rapporté Cheikh Rabi' ici, Hafidahullah, le débat de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, avec Al-Khawarij, lorsque Ali, le calife, bien guidé, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, l'envoya pour débattre avec eux. Et le deuxième, je l'ai déjà évoqué précédemment, c'est Hadith Al-Jahannamiyyin. Al-Jahannamiyyin. Qui sont Al-Jahannamiyyoun? Qui sont les Jahannamiyoun? Tamien, tfaddal.
C'est les musulmans qui passeront par l'enfer
Ahsant, Ahsant. On les appelle, qui les appelle comme ça? Qui les appelle Al-Jahannamiyin? Ahsant, j'allais te poser la question, cher. Allah yibarik fik. Les gens du paradis, ce sont eux qui les appellent Al-Jahannamiyin, comme il a rapporté dans ce hadith. Ils sont appelés par les gens du paradis Al-Jahannamiyin. Ce sont ces musulmans qui passeront par l'enfer, qu'Allah nous en préserve, et qui termineront au paradis. Car ceci est la croyance des gens de la sunna. Celui qui est mort sur l'islam rentrera au paradis, même s'il passe avant cela par l'enfer, tant et tant de temps. Sa destination finale, le musulman, celui qui est mort sur At-Tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, son devenir final sera le paradis. A l'inverse de l'Khawarij, qui eux voient que celui qui a commis des grands péchés, et ceci bien sûr comme on l'a évoqué ici, l'Khawarij, ils ont beaucoup de voix, ils sont de différentes sortes. Certains disent que c'est celui qui a commis des grands péchés, certains disent que c'est celui qui aura commis des petits péchés mais qui sera resté constant sur ses petits péchés et ne les aura pas délaissés. Et chez les gens de la sunna, celui qui commet un petit péché et qui ne délaisse pas ce petit péché-là devient un grand péché, c'est-à-dire l'israr al-sarira, c'est-à-dire le fait d'être constant et de ne pas délaisser un péché, ceci le rend grand péché. Ceci devient, c'est-à-dire ce n'est pas le péché en lui-même, mais c'est ce qu'on appelle l'israr, le fait de rester constant sur ce péché. Tout ceci sont des divergences auprès de l'Khawarij qui nous apportent peu ici. Nous savons que l'Khawarij, ce sont l'Khawarij. Ils rendent mécréant celui qui commet des grands péchés. Certains rendent mécréant celui qui commet un grand péché. D'autres ont eu d'autres explications en disant qu'à partir de tel et tel péché, il devient mécréant et autre que cela. Comme je vous dis, les innovations ne s'arrêtent pas. Les gens de l'innovation ne s'arrêtent pas. À chaque innovation, tu trouveras des centaines d'innovations derrière et des centaines de manières d'expliquer leurs innovations. Ceci ne nous intéresse pas grandement. Ce qui nous intéresse, c'est ce hadith. Pourquoi je l'ai rapporté? Je l'ai déjà rapporté précédemment. Comment il s'appelle ce hadith? Le hadith, il se trouve dans le Sahih de l'Imam Muslim. Vous vous rappelez, je l'ai déjà rapporté précédemment. C'est celui qui est rapporté par un tabi'i qui s'appelle Yazid al-Faqir. Il est connu comme le hadith donc de Yazid al-Faqir, qui est un tabi'i, radiyallahu anhu wa rahimahullah. Il s'appelle Yazid al-Faqir. Pourquoi al-Faqir? Pas parce qu'il était pauvre, donc al-Faqir, ça veut dire celui qui est pauvre, mais pas parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il avait un problème à sa colonne vertébrale. Il avait une maladie à sa colonne vertébrale. Sa colonne vertébrale, al-Amoud al-Faqri. Donc on l'appelait Yazid al-Faqir. Ce hadith se trouve dans le Sahih de l'Imam Muslim. Je l'ai rapporté, je introduirai le débat de Abdallah ibn Abbas par ce hadith. Pourquoi? Car dans le débat de Abdallah ibn Abbas, nous voyons l'importance des savants de la communauté, leur place importante et le fait que ce sont eux qui, par ces livres comme les traités de la Sunna, de même que par ces livres comme les livres de Roudoud, de réfutation, ce sont eux qui sont une cause de préservation de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, dans ce hadith, rapidement je vais le résumer, ce hadith de Yazid al-Faqir, il dit: j'avais pris l'avis, dans le sens de ses paroles, j'avais pris un avis parmi les avis de Al-Khawarij. Le hadith se trouve dans le Sahih de l'Imam Muslim. Il dit: je suis parti, moi et un groupe, donc un groupe de Khawarij, et nous étions un grand nombre. Nous voulions le Hajj. Donc nous sommes partis, nous sommes sortis de chez nous pour faire le Hajj, le pèlerinage. Et après avoir fait le Hajj, nous aurions fait Al-Khuruj. Ici, on regarde l'explication de ce Khuruj qu'il a voulu ici, soit pour appeler les gens à leur croyance fausse et erronée, ou soit simplement le Khuruj avec l'épée, comme c'est connu chez Al-Khawarij. Puis il dit, donc nous avons voulu faire le Hajj, nous sommes sortis de chez nous pour faire le Hajj, et ensuite nous avons voulu faire Al-Khuruj, Nakhruju al-Nas. Il dit: nous sommes passés par Médine, la ville de Médine, et nous avons trouvé Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, qui enseigner aux gens. Donc quand ils sont passés à Médine, ils ont trouvé un des grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jabir ibn Abdillah, qui enseignait aux gens. Il était assis contre un poteau dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un pilier. Et il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce hadith de l'Jahannamiyyin. Donc un peuple que les gens du paradis appellent l'Jahannamiyyin. Donc il rapporte ce hadith. Ces gens qui rentreront au paradis, qui rentreront en enfer de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui seront brûlés en enfer, puis qui seront sortis de l'enfer vers le fleuve de la vie, Nahrul Haya, comme il est rapporté dans le hadith, le fleuve de la vie, où ils revivront comme revit une graine, comme sort une graine. Et dans certains hadiths, comme dans celui-là, qui seront devenus comme du charbon dans l'enfer, ou qui seront devenus comme Sim, c'est le sésame, comme une graine de sésame qui est horrifiée. Puis ils seront jetés, ils seront sortis de l'enfer et jetés dans ce fleuve de la vie, et de ce fleuve-là, ils en sortiront comme s'ils n'avaient pas été brûlés. Et c'est pour cela que les gens du paradis les appellent Al-Jahannamiyyin. Donc les gens qui sont passés par Jahannam, qu'Allah nous en préserve. Il dit ici, donc il parlait de ce hadith, il rapportait aux gens ce hadith, le hadith de Al-Jahannamiyyin. Je suis passé par lui et je lui ai dit, ô compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme cela il l'interpelle, quelle est cette chose que tu rapportes aux gens? Et Allah Azza wa Jalla a certes dit telle et telle chose. Il lui rappela deux versets du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, un verset qui, chez ces gens-là, qui ont dans leur cœur un attrait, un penchant vers ce qui est équivoque, peut prêter à d'interprétations diverses, comme il a rapporté dans, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans ce verset de Surat Al-Imran. Je ne veux pas rentrer dans cela, c'est-à-dire celui les versets qui prêtent à équivoque, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, puisque c'est le sujet du cours de la semaine prochaine. On va parler de cela, Inch'Allah Ta'ala, ceux qui prêtent à équivoque et ceux qui ne prêtent pas à équivoque. Il dit donc, il rapporte des versets du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et en gros, il prend ces versets comme preuve que les gens ne sortent pas de l'enfer après y être rentrés. Et ici, comme dans ce débat d'Ibn Abbas, que je vais résumer, nous voyons que les gens de l'innovation ont toujours cette même voie. Ils prennent, comme il a rapporté d'Abdallah ibn Umar, sur Al-Khawarij, il dit, ils se sont tournés, ou ils ont pris des versets du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui sont descendus sur les non-croyants, et ils les ont appliqués aux croyants. Ça, c'est la voie des gens de l'innovation, toute innovation confondue. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des versets, et ils vont les sortir de leur contexte. Ça, c'est la base chez les gens de l'innovation. Il dit donc, il rapporte donc ces versets, il dit, n'as-tu pas entendu cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit telle et telle chose. Puis, Jabir ibn Abdillah lui dit, tu lis le Coran? Il répondit, oui, Yazid al-Faqir. Il dit, as-tu donc entendu parler de la place de Muhammad, maqam Muhammad, qui est évoqué dans Surat al-Isra? Et ce qui est voulu par cette parole de Maqam Muhammad, donc cette place de Muhammad, la place que Allah Azza wa Jal donnera à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette place que tu demandes à chaque fois dans ton invocation après Al-Adhan, hein, Al-Wasila, Maqam Muhammad, eh bien ce Maqam, c'est, comme on l'a dit dans les cours de Al-Qawad Al-Arba, vous vous rappelez? Quel est ce Maqam? Hein? Kamel? Al-Shafa'atul Uzma. La grande intercession. L'intercession du prophète, que ce soit la grande intercession ou les autres intercessions du prophète Mohammed, comme on l'a étudié dans Al-Qawad Al-Arba, les quatre règles, le fait qu'il y a plusieurs intercessions, certaines qui sont propres au prophète Mohammed, certaines autres qui sont générales, qui appartiennent aux croyants pieux, qui appartiennent aux anges, qui appartiennent aux autres prophètes et autres que cela. Donc l'intercession. Ici, Jabir ibn Abdillah l'a réfuté en lui rapportant ce verset traitant de l'intercession. C'est-à-dire, tu n'as pas entendu parler de cette intercession qu'intercédera les croyants, les anges, qu'intercédera notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en faveur de ceux qui seront rentrés en enfer. Donc ne prends pas une partie du livre d'Allah Azza wa Jalla et tu délaisses une autre partie. Ne prends pas une partie de la religion et tu délaisses une autre partie. Donc ici, Jabir ibn Abdillah lui parle de cela. Elle dit, Yazid al-Faqir, elle dit, bien sûr que j'en ai entendu parler. Puis il dit que cette place, c'est la place louable du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par laquelle il fera sortir ce qu'il fera sortir de l'enfer. Puis, comme il est rapporté par Yazid al-Faqir ici, il évoqua des choses qui se passeront au jour du jugement, et il dit jusqu'à des choses que je pense ne plus mémoriser. Yazid al-Faqir, donc il rapporte déjà Jabir ibn Abdillah, il dit des choses que je ne pense ne plus mémoriser. Puis il dit, et il a prétendu qu'il y aura un peuple qui sortiront de l'enfer comme s'ils étaient des graines de sésame torréfiées ou brûlées, et qui rentreront dans un fleuve du fleuve du paradis, donc comme dans un autre hadith qui est appelé Nahrul Haya, le fleuve de la vie. Ils se laveront dans ce fleuve et ils en sortiront comme s'ils n'y étaient pas rentrés en enfer. Et Yazid al-Faqir dit, je suis revenu et j'ai dit, donc à ces gens qui étaient avec moi, à mon groupe, j'ai dit, prenez garde, est-ce que vous voyez Ash-Shir, cette personne âgée? Est-ce que vous le voyez ici, Ash-Shir qui est voulu ici, c'est la personne âgée. On a dit dans les cours précédents que Ash-Shir a plusieurs significations. Ici, c'est la personne âgée. Est-ce que vous voyez Ash-Shir, donc cette personne âgée, mentir sur le prophète, sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Prenez garde. C'est-à-dire que ici, Yazid al-Faqir a été convaincu par la parole de Jabir ibn Abdillah, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'imagine pas qu'il en est venu à mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc été convaincu par qui? Par un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par un grand savant de la communauté, qui l'a réfuté avec les preuves ici du Coran et de la Sunna. Pas comme on peut le voir, des gens qui viennent à des assises télévisées, des gens ignorants ou inconnus, ou des gens qui ont un petit peu de science. Ici, ce sont des grands savants. Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été la cause de quoi? Que Yazid al-Faqir revienne et que tout son groupe revienne sauf une seule personne, comme il a rapporté donc dans le hadith. Tout le groupe de l'Khawarij qui était sorti pour le hajj et après sortir contre les gens, soit avec l'épée, soit en tout cas les appeler à leur innovation. Il a été la cause par ce débat avec quoi? Avec beaucoup de paroles. Inverser un hadith évoqué par un grand savant de la sunna, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici nous voyons donc dans ce hadith, le hadith de Yazid al-Faqir, la place élevée et importante des savants, des grands imams de la sunna, de même que la place élevée et importante de la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même que la manière de débattre. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe quel ignorant qui débat, qui engage un débat. Même si tu penses que tu peux avoir le dessus sur cette personne, tu n'es pas à l'abri que par ce débat, il rentre dans ton cœur une ambiguïté qui te fasse dévier de la voie droite sur laquelle tu étais. Donc cette chose est à laisser aux grands savants de la sunna. Et je terminerai ici rapidement donc le cours d'aujourd'hui par ce hadith qui est rapporté avec une bonne chaîne de transmission dans le musnad de l'imam Ahmed, de même que dans le mustadrak de l'Hakim et autres, que cela parmi les recueils, où il est rapporté donc ce débat de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, lorsqu'il débattut avec Al-Khawarij. Je vais résumer ici, simplement pour vous donner une idée de ce débat. Et incha'Allah ta'ala, on essaiera de faire un cours pour sortir les bénéfices de ce débat, car il y a beaucoup de bénéfices à en tirer. Il dit, lorsque le Haruriya, qui sont le Haruriya? Le Khawarij. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés le Haruriya? Pourquoi est-ce qu'on appelle le Khawarij le Haruriya, Soufiane Fadl?
Un endroit spécifique.
Un endroit qui s'appelait Harura, qui se trouvait du côté de l'Irak. Et ils venaient, ou une partie de le Khawarij en tout cas venait de là-bas. Donc ils étaient appelés, les premiers Khawarij, ils étaient appelés le Haruriya. Il dit, lorsque Al-Haruriya sont sortis, ils se sont réunis dans une maison. Et ils étaient 6000. 6000 personnes réunies dans une maison. Je suis venu voir Ali, donc le khalifa, le chef des croyants. Ici, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et je lui ai dit, ô prince des croyants, ô Amir al-Mu'minin. Il lui a dit, abrid bil-dhuhr, c'est-à-dire, retarde la prière de dhuhr. car je vais voir ce peuple. C'est-à-dire, retarde la prière de Dhuhr, comme ça je vais voir ce peuple-là, je vais débattre avec eux et je reviens prier avec vous la prière de Dhuhr. Moi-même, je vous ai dit que je vais résumer ici pour ne pas trop tarder. Je vais résumer donc ce débat. Et retarde la prière de Dhuhr afin que je puisse aller voir ce peuple-là, le peuple de l'Khawarij, et que je leur parle, je débatte avec eux. Qu'est-ce qu'a dit Ali ibn Abi Talib ? Il dit « Inni akhafu alayk » J'ai peur pour toi. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui a peur pour Habr al-Ummah, cette personne qui a gagné la bénédiction du du'a du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Allahumma faqqihu fi d-din wa allimhu ta'wil » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce du'a pour Abdullah ibn Abbas, son cousin, radiyallahu anhu wa an abi. Et il lui dit « J'ai peur pour toi ». Ça, normalement, tous ceux qui, d'entre nous, qui s'avancent à aller débattre avec les gens de l'innovation ou avec les gens des ambiguïtés, doivent prendre en grande considération cette parole de Ali à Habr al-Umma Abdallah ibn Abbas. Il lui dit « J'ai peur pour toi ». Allahu Akbar. Il lui dit ensuite « N'aie pas peur ». Puis il dit « Je suis parti les voir et j'ai porté mes plus beaux vêtements, un beau vêtement qui venait du Yémen ». Et la personne qui rapporte ce débat, elle dit que Ibn Abbas était quelqu'un de beau, quelqu'un qui était de beau, qui était beau et élégant. Puis Ibn Abbas dit, je suis venu les voir. Il a dit, je suis venu les voir et ils étaient réunis dans cette maison. Je leur ai passé le salam, je leur ai dit, donc, assalamu alaikum. Et ils m'ont répondu, marhaban bik ya Ibn Abbas. Ils n'ont même pas rendu. À la manière de l'Khawarij. Vous connaissez l'Khawarij. Eux pour vous, vous n'êtes pas musulman. Donc à partir de là, ils ne vous donnent pas le salam. Soit ils te disent « wa alayka » comme on répondrait aux juifs qui te passent « assalamu alayk » ou alors ils te disent « marhaban bik » ou alors ils te disent « assalamu ala man ittaba al-huda » Le salam est sur ceux qui suivent la guidée. Ils ne passent même pas le salam, ils lui ont dit « marhaban bik » À qui ? Le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam « Habrul Umma » Allahu Akbar. Ce comportement bas et vil avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, toute personne qui a été éprouvée par les mauvais comportements envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été avilie dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Et celui qui les a honorés, qui les a élevés, celui-là est l'honoré. Chez les gens de la sunna, ici dans ce monde, comme dans l'au-delà auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici donc, ils lui ont dit marhaban bik. Ya Ibn Abbas, ma hadhihi al-hulla. Bienvenue à toi. Donc ils ne lui ont pas rendu le salam. Oh Ibn Abbas, quel est cet habit ? La première chose qu'ils ont vu sur lui, quel est cet habit ? C'est-à-dire qu'ils l'ont critiqué pour ce bel habit qu'il a porté. Pourquoi tu portes cet habit-là ? Tu es dans c'est-à-dire tu portes un habit qui est beau. Pourquoi ? Pour quelle raison ? C'est une critique qu'ils lui font. Et Ibn Abbas de dire cette phrase qui est très importante. Pourquoi me critiquez-vous pour cela ? J'ai certes vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam porter parmi les meilleurs vêtements, les meilleurs ornements. Donc ici, Ibn Abbas, il leur répond en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était certes ainsi. Certaines personnes critiquent une autre personne, mais ils ne se rendent pas compte que ceci est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur des hommes l'a fait. Pourquoi me critiques-tu pour faire cette chose-là alors que le meilleur des hommes l'a fait ? Si tu es ignorant de la sunna, c'est une chose. Mais ne viens pas critiquer une chose parce que tu en es ignorant. Le meilleur des hommes a fait cette chose-là. Parfois, une personne, sa raison, et cette raison, si elle n'est pas éduquée, elle n'a pas été élevée sur la compréhension du Qur'an de la sunna, cette raison sera pervertie. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont pas été élevés sur le Qur'an de la sunna. C'est une chose qu'on fait. C'est un effort que l'on fait. Donc à chaque fois que tu vois une chose comme cela, chez ton frère, un frère qui a de qui tu as une bonne pensée, demande-lui. Ne viens pas à lui comme si tu réprouvais la chose qu'il a fait sans même lui demander pourquoi tu as fait cela. Peut-être que la chose qu'il fait est une sunna, est une bonne chose. Il dit donc, Ibn Abbas, j'ai certes vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam porté parmi les meilleurs ornements. Ensuite, il lui cita le verset de Sourate Al-A'raf. Puis il dit, donc Al-Khawarij, pourquoi es-tu venu ? Il dit, je suis venu écouter cette phrase-là, et c'est une des phrases les plus importantes, et c'est sur celle-ci qu'on va s'arrêter, ou un petit peu après, donc je vais évoquer certains points, on va s'arrêter sur cela. il lui a dit, je suis venu d'auprès des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les muhajirin wal ansar, afin de vous transmettre ce qu'ils disent et de leur transmettre ce que vous dites. Car certes, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont sur eux que le Coran est descendu, c'est-à-dire ce sont à leur époque que le Coran est descendu. Et ils sont plus savants que vous de la révélation. Et sur eux est descendue la révélation, effectivement, et il n'y a pas parmi vous un seul d'entre eux. وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدْ. Il n'y a pas d'entre vous une seule de ces personnes. Ici, Ibn Abbas nous donne par cette parole, cette règle que l'imam Ahmed nous a donnée ici dans ce que nous avons étudié. La compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes sur quelque chose qui n'est pas la compréhension du prophète, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'y a aucun d'entre eux parmi vous. Aujourd'hui, une personne qui ne se reposera pas sur la compréhension, sur les choses qui sont rapportées des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mérite la même parole que Ibn Abbas a dit Al-Khawarij. Et vous ne vous reposez sur aucune chose qui est rapportée de la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une règle très importante qu'a évoquée Ibn Abbas. Puis, après cela, il commença le débat. Et ce débat est un débat qui tourne sur trois choses. Donc, sur trois sujets. Ibn Abbas demande, quel est le problème que vous avez ? Ils évoquèrent trois sujets. Trois sujets. Et Ibn Abbas de leur dire, si je viens à vous avec une parole du livre d'Allah ou une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous allez vous en contenter ? Ils répondirent oui. Ils commencèrent alors le débat. Ils évoquèrent ces trois sujets, et à chacun de ces trois sujets, Ibn Abbas leur apporta une parole du livre d'Allah et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque fois il leur dit, êtes-vous revenu ? Êtes-vous revenu de celle-ci ? Êtes-vous sorti de celle-ci, de cette erreur, de cette ambiguïté ? Ils dirent oui, 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 jusqu'à ce qu'à la fin du débat, il dit, 2000 d'entre eux sont revenus. 2000 d'entre eux sont revenus, sont sortis de cet avis de l'Khawarij, ils étaient 6000. Et il a dit, donc Ibn Abbas, si vous vous rappelez, il a dit à Ali, abrid bidh-dhuhr, c'est-à-dire qu'il a dit, retarde la prière de dhuhr, c'est-à-dire entre eux, le début de la prière, ou un petit peu avant la prière de dhuhr, jusqu'à, entre dhuhr et l'asr, dans tous les cas, eh bien, il a fait revenir, habrul umma, 2000 personnes parmi l'Khawarij. On voit ici, encore une fois, la place importante des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des imams de cette communauté, et la manière de débattre avec les gens de l'innovation. Donc, comme je l'ai dit, pas un ignorant, mais un savant, un imam de la communauté, c'est lui qui débat avec les innovateurs. Comment il débat ? Pas avec des paroles de telle ou telle compréhension ou tel raisonnement, excusez-moi, mais pas avec des paroles du livre d'Allah et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la voix des gens de la sunna. Et comme je l'ai dit, pour ne pas traîner, pour ne pas tarder, on essaiera de faire un cours où on sortira les bénéfices de ce débat. Car c'est un débat qui est important de lire. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il est traduit en français, ce débat-là. Quelqu'un a une science de cela ? Non ? Je pense que c'est une chose, peut-être vous avez jamais entendu parler de ce débat, peut-être. C'est quelque chose qui mérite d'être traduit et d'être analysé et étudié. Inch'Allah, on essaiera de faire un cours sur ce débat et de sortir les bénéfices à en tirer, les autres bénéfices que je n'ai pas rappelés. Car il y a dans cette méthode qu'a suivi Ibn Abbas, cette méthodologie, et ces questions-là, des questions qui peuvent se poser à plusieurs personnes, des ambiguïtés qui peuvent se poser à plusieurs personnes. Il faut savoir que Al-Khawarij de l'époque ne diffère pas beaucoup en tout cas de l'Khawarij d'aujourd'hui, ou plutôt l'Khawarij d'aujourd'hui ne diffère pas beaucoup de l'Khawarij de l'époque dans les fondements des ambiguïtés, des innovations. Et comme l'a dit Abu Qilaba, si vous vous rappelez, il disait dans cette parole qui est connue, Rahimahullahu ta'ala, Ahlul bida'i ikhtalafu fil ism wa jatama'u 'ala as-sayf. Les gens de l'innovation ont divergé, se sont divisés dans le nom, ont chacun un nom différent, Khawarij, Qadariya, Shia, etc. Et ils se sont réunis sur l'épée. Donc, c'est-à-dire le fait de se révolter contre le gouvernement. Ce qui évolue ici, c'est bien sûr ce point-là. C'est une réalité, ils sont tous d'accord sur la sortie, la révolte contre le gouverneur, mais aussi, de manière plus générale, le fait que les gens de l'innovation tiennent tous sur la même chose. Le suivi des ambiguïtés, le suivi de l'équivoque et le non-suivi de la sunna, le non-suivi des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont mieux compris notre religion et qui l'ont rapporté à nous. Et ceci est le sujet du cours de la semaine prochaine. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.